Isère Classique, le magazine musical de RCF Isère, présenté cette semaine par Éric Rouillet du label Le Palais des Dégustateurs.
Bill Heidi, bonjour.
Bonjour Éric.
Vous êtes notre invité pour une émission consacrée à votre discographie, en tout cas une partie de votre discographie. Et je voulais démarrer alors avec une petite fourberie, si vous me permettez, parce que j'ai parlé avec vous de Déodat de Sévrac. On a essayé de situer un peu son statut par rapport à l'histoire de la musique, par rapport à la musique française. Effectivement, ce n'est pas le plus grand des compositeurs. C'est un compositeur qui a un charme très particulier, que vous aimez jouer, qui vous apporte de la joie, du bonheur, de la lumière.
Beaucoup.
Et j'aurais aimé savoir comment vous considérez la musique de Guy Sacre aujourd'hui. En sachant que vous êtes très impliqué.
Oui, justement.
Avec le compositeur.
Voilà. En fait, dans le cas de la musique de Guy Sacre, je suis son pianiste, pas attitré, mais c'est moi qui fais la plupart des créations. Je suis très, très attaché. C'est quand quelqu'un décide, par amour pour la musique en question, d'un compositeur qui n'est pas encore connu assez, de consacrer autant de temps et d'efforts, forcément, il va en parler beaucoup, il va les diffuser beaucoup, mais ça serait stupide, par exemple, de ma part, de dire, voilà, il y a Debussy, Ravel, Fauré, Guy Sacre. Je ne peux pas tomber dans ce travers, du tout.
D'accord, donc vous restez quand même, par rapport à ce que vous disiez sur De Sévrac, que j'essayais de survaloriser, vous êtes quand même dans une présence d'esprit, d'une lucidité, en disant « Oui, moi j'aime la musique de Guy Sacre, elle représente quelque chose, mais ne mélangeons pas tout. »
Oui, mais dans le cas de Guy Sacre, je suis pas seulement parce que je suis tellement impliqué, j'ai tellement suivi sa création, et ça continue en fait, j'ai beaucoup, beaucoup enregistré, que je me suis engagé pleinement dedans. C'est évident que c'est vrai que ce n'est pas la même chose. C'est vrai que j'ai fait un disque, j'adore cette musique, mais c'est évident que je ne vais pas choisir C'est vrai que sur les deux si on m'oblige. Impossible. Impossible.
Et est-ce qu'aujourd'hui, je peux me permettre de dire que quand j'écoute Guy Sacre, qui est un compositeur contemporain, est-ce que c'est peut-être celui qui représente le plus l'esthétique française?
Il la représente beaucoup. Beaucoup. Je peux revenir juste sur votre question d'avant. Vous connaissez bien sûr le nom de Blanche Selva. Sa façon, elle qui a fait l'intégrale des préludes des fugues de Bach, qu'est-ce qu'elle n'a pas joué, cette immense pianiste et cette immense pédagogue. Mais elle était amie de Sévrac. Elle a annoté ses partitions. Ce n'est pas mon cas avec Isaac, mais elle a mis les pédalisations, des doigtés, des indications. Elle les jouait partout. Sans doute, elle offrait les partitions partout. Et si on demandait en 1910 à Blanche Selva de nous parler de Déodat Sévrac, c'est comme ça que moi je parlerais de Guy Sacre. Mais on ne pouvait pas lui... C'est comme si vous demandez à Blanche Selva, oui, mais ce Sévrac pour lequel vous donnez tellement de votre vie, de votre temps, de votre enthousiasme, est-ce que vous le mettez sur le même niveau que Debussy? Elle dira... Ce n'est pas la question. La question n'a pas
d'intérêt, n'a pas de sens.
N'a pas d'intérêt, vraiment.
Alors, peut-être que la meilleure façon dont vous parlez de Guy Sacre, c'est en le jouant.
Oui.
Et on va écouter un extrait de la deuxième sérénade.
Thank you.
La musique de Guy Sacre, interprétée par Billy Heidi. Billy Heidi, nous allons continuer notre promenade dans votre discographie avec Gabriel Fauré. Est-ce que cette fois-ci, ce compositeur a droit de citer auprès de vous dans l'histoire de la musique? Et est-ce que par rapport à Debussy Ravel dont nous parlions, il a une place?
Immense
enfin.
Place. Immense. En fait, Fauré, c'est ce grand romantique dont la France avait beaucoup besoin. Il n'y a pas de grand romantique français, sauf la moitié de Chopin, mais il n'y a pas de grand romantique vraiment qui compte, et je l'ai toujours appelé un grand romantique français. On ne peut même pas discuter les années, puisqu'il n'a que presque 10 ans de moins que Brahms, même génération. Brahms est bien un compositeur romantique, donc Fauré peut avoir droit à ce nom. Rachmaninov est un compositeur romantique, il a vécu jusqu'à 1940. Et quand je dis romantique, c'est qu'il touche vraiment comme les compositeurs romantiques. Vous savez, dès qu'il y a une mélodie vaguement ou très amoroso à l'aigu avec des arpèges en dessous, ce langage pour le piano, c'est-à-dire le langage des nocturnes et de la barcarolle de Chopin, est le propre de l'esthétique romantique. Et éminemment français, bien sûr, donc avec la pudeur que ça demande, mais Debussy et Ravel, si on les met dans un sac, Fauré forcément est dans un autre. Fauré ne regarde pas vers le XXe siècle. Il est moderne parce que harmoniquement, rien ne va plus à un certain moment, et l'harmonie somptueuse de la fin est une harmonie difficile, tout à fait analysable, mais plus compliquée que les musiques parfois très modernes du XXe siècle. Mais c'est l'esthétique et romantique.
Pourtant, c'est quand même une sonorité, pour moi, qui est toujours un peu lointaine, un peu évasive, un peu immatérielle, c'est abstrait. J'ai pas cette perception de cette immédiateté romantique chez Fauré.
Mais c'est parce que c'est un Français. C'est parce que c'est un Français aussi.
Il y a une pudeur.
Oui,
parce que chez les romantiques, on exhibe.
Mais c'est, oui, mais c'est, je n'ai pas dit un compositeur romantique. Compositeur romantique français. Quand on dit, quand on ajoute cet adjectif, c'est la pudeur, ne pas en faire trop, ne pas grimacer, ne pas tomber dans les excès, mais ça ne fait pas du tout plus de profondeur, à mon sens, chez Chopin ou Schumann ou Brahms, que dans les morceaux les plus émus de Fauré, du tout. C'est une autre esthétique, c'est une esthétique moins lourde parfois.
Alors, j'allais dire, les romantiques que vous citez sont des romantiques du surplus, de l'addition. Fauré, il enlève. On en parlait avec Jean-Yves Bizot, ce phénomène de la soustraction, d'enlever. Il y a quand même une attitude morale face à la musique qui est peut-être différente.
Mais je dirais quand même qu'il le fait peu à peu dans sa vie. Parce qu'il y a quand même une petite dose de luxuriance,
oui,
de générosité, déjà par tous ces glouglous de sa musique, les arpèges qui montent et qui descendent, ce n'est pas de l'austère économie. Mais peu à peu, ouvrez une partition dans les opus 20-30, dans les premières barcarolles, ouvrez une partition de la fin, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins noirci de traits, de double croche, des choses qui vont... C'est plus monacal.
Oui, alors on se rapproche d'une musique presque inexpressive qui
musique qui, du silence
qui exprime
très expressive
dans la retenue.
Oui, mais en fait plus que ce qu'on l'a voulu. Dans les dernières œuvres, dernier nocturne, dernière barcarolle, un peu difficile, c'est vrai pour le public. Et l'expressivité, si le pianiste ne défend pas cette expressivité comme il défendrait l'expressivité dans plein de pages de Chopin, il va passer à côté.
Alors, il est peut-être plus difficile d'interpréter Fauré que d'interpréter Chopin.
Oui, ça se saurait sinon. Il y a beaucoup de gens ne sont pas à l'aise dans Fauré.
Interpréter Fauré, ça ne supporte aucune approximation, aucune vulgarité, sinon on passe totalement à côté.
Oui.
On déforme l'œuvre.
En fait, c'est la musique de Fauré, c'est la musique du éternel continu, le flot, la musique aquatique. La présence de l'eau n'est pas que dans les barcarolles. Tout coule de manière qui ne s'arrête pas. Donc, quand l'interprète joue et qu'on sent que son jeu est cantonné par des imaginaires divisions de métronome, par un compte trop carré, mais c'est les mêmes difficultés que pour Chopin, en fait. C'est une, comment trouver un flot total, mais une pulsation classique, et, mais jamais, jamais l'impression que c'est tranché à angle droit. Sinueux, tout le temps sinueux. Alors, même dans les œuvres de la fin, qui ne donnent pas cette impression à l'allure de la page.
B.I.D., je propose que nous écoutions la deuxième parole, opus 41, que vous avez enregistrée, où, a priori, on sent une certaine insouciance, le printemps, la clarté, la fraîcheur.
Champêtre, pastoral, une barcarolle heureuse, la mélancolie n'a pas sa place.
Écoutons.
Thank you.
deuxième Barcarolle, opus 41, Gabriel Fauré, interprété par Billy Heidi. Billy Heidi, est-ce qu'il y a un plaisir, je ne parle pas de plaisir intellectuel, émotionnel, mais est-ce qu'il y a un plaisir tactile, digital, différent, à jouer par exemple Fauré, à jouer Debussy, à jouer de Sévrac, Guy Sacre? Est-ce que ce plaisir du doigt existe?
Bien sûr. Et il est très très présent dans Fauré, mais un peu le même qu'on a dans Chopin. Fauré, c'est vraiment la descendance pianistique de Chopin. Pas seulement parce que, comme Chopin, il écrit préludes, valses, nocturnes, barcarolles, c'est les mêmes formes sans titre. C'est l'apothéose du piano, en fait.
Vous touchez le piano différemment? Vous avez un contact, oui, et un rapport au piano qui est différent?
Bien sûr. Et avec des choses en commun, bien sûr. L'enfoncement, évidemment. Mais selon le son qu'on veut entendre, selon la fluidité ou la non-fluidité, selon la pesanteur de cette musique, bien sûr qu'on touche différemment. Alors, le dilemme de Fauré est le suivant. C'est que, à force de dire que c'est français, ce n'est pas germanique, c'est un romantisme plus digeste, on aurait pensé qu'il faut le jouer en effleurant. Or, les vrais compliments qu'on donne à des bons interprètes de Fauré, c'est justement non, qu'il y a une patte sonore importante. Ils vont au maximum de le fait d'aller au fond des touches, mais pas comme si c'était du Wagner, bien sûr, du tout. Du Brahms ou Wagner à l'orchestre.
Oui,
pas
oui.
Ce genre de patte germanique lourde, mais... La difficulté vient du fait que si on dit léger, donc on le joue léger, donc tout suit. C'est-à-dire, c'est une musique pas émouvante, mais sirupeuse. C'est le contraire de Fauré, en fait. Il ne faut pas du tout jouer le jeu, petite jolie chose, bibelot, du tout, du tout, du tout.
Et puis, en fait, soit la musique de Fauré est enthousiasmante, soit elle est ennuyeuse, suivant la façon dont on l'aborde.
Oui,
on ne peut pas se tromper. Fauré interdit l'erreur, la façon de l'aborder. Il ne permet pas à l'interprète...
Oui, mais d'un autre côté, il n'y a pas une seule façon. C'est-à-dire, on lit des bonnes choses, ou on est obligé de... Moi, j'ai entendu récemment quelqu'un, un relativement jeune, non important de nous maintenant, qui a enregistré quelques barcaroles. Je lui ai écrit un mot. C'est le contraire de ce que je fais. C'est le contraire de ce que j'aimerais qu'on fasse. Mais c'est magnifique.
Oui, parce qu'il a peut-être quelque chose à exprimer à travers.
Oui, c'est-à-dire que c'est des critères que je ne penserais pas mettre du tout pour Fauré, mais on sent la sincérité. Si l'émotion est là, si on est ému par cette musique, et comment on peut ne pas être ému?
Billy Heidi, je propose que nous écoutions une nouvelle barcarolle, la troisième, l'opus 42, qui est un peu différente de celle d'avant, qui est un peu plus tamisée, un peu plus moelleuse, amortie.
Oui, plus recherchée, plus grande pièce que la deuxième, que j'adore quand même. Mais la troisième, c'est une des plus somptueuses pages de Fauré.
Alors, nous allons en écouter un extrait.
Thank you.
vieille dit, troisième Barcarolle, opus 42, Gabriel Fauré. On va finir notre émission, mais avant, je voulais vous ramener un peu vers le label Le Palais des Dégustateurs, puisque vous venez d'enregistrer un nouveau CD avec des œuvres de Guy Sacre. Vous êtes dans un label de vin, de gastronomie, alors évidemment, c'est quand même assez atypique pour vous. Et je sais que, quand on parle de vin, puisque j'ai l'habitude d'en déguster, plus on cherche à en parler, à faire des phrases, à mettre en valeur, à surenchérir sur les éloges, et en fait, plus on dit des bêtises, et plus on s'éloigne de la réalité, en fait, on ne fait que bavarder sur les choses. Mmh. Est-ce que... Alors évidemment, je ne vais pas me remettre en question, parce que c'est mon rôle, mon statut, mais malgré tout, est-ce que c'est facile pour vous de répondre à des questions qui participent un peu au bavardage autour de la musique? On sort un peu de l'essentiel. Comment... Je sais que les vignerons n'aiment pas qu'on leur parle de leur vin, qu'on leur demande leur avis, parce qu'on leur dit oui, alors ça sent la myrtille, ça sent le cassis. Non, on parle de l'émotion. Et en fait, on s'échappe toujours de l'essentiel quand on parle du vin. Et est-ce que dans la musique, je crois, il y a ce même travers, il y a la même erreur fondamentale?
C'est un peu la même chose, mais je pense qu'un vigneron à qui vous allez parler de myrtille ou de goût ou de rond de celui, cela, si vous accompagnez vos discours par les phrases qu'il veut entendre sur tout simplement l'émotion que le vin vous a donnée, il sera content. Le problème, c'est que des gens pensent parler de musique en ne faisant que du bavardage, par exemple d'analyse ou de pensée. Quelqu'un qui n'est pas capable de faire sentir qu'avant tout, il est extrêmement ému de cette phrase, il va le dire comme il veut, il est passé à côté de l'essentiel. Ce n'est pas parce qu'il va parler histoire ou analyse ou l'apport du compositeur à son siècle. Tout ça ne veut rien dire, en fait. Mais on peut parler très, très bien de musique. Mais chez eux, chez ces écrivains rares, il faut sentir qu'ils auraient pu ne rien dire et seulement vous faire sentir l'émotion que cette musique leur donne.
En fait, je me suis rendu compte que quand je veux parler musique avec pertinence, il faut que j'interroge les vignerons. Et quand je veux parler vin avec beaucoup d'intelligence, il faut que je me tourne vers les musiciens. Billy Heidi, je vous remercie d'être venu dans nos studios.
Merci à vous.
Nous allons nous quitter avec la 9e Barcarolle de Gabriel Fauré. Et nous nous retrouverons dans quelques mois, peut-être dans 6 mois, dans un an, pour la sortie de votre disque. Et nous en profiterons pour dédier une émission à votre disque consacré à Alexandre Scriabine. Merci,
Billy Heidi. Merci à vous.